Chapitre 4. En sortant de chez moi le lendemain matin, j'aperçus deux hommes qui regardaient une devanture de magasin. Comme je l'avais déjà fait plusieurs fois, je m'arrêtai aussitôt et feignant de réfléchir, comme si brusquement je venais de m'apercevoir d'un oubli, je restai immobile, tourné dans une autre direction, paraissant ignorer même qu'ils fussent là. Puis je rentrai dans le couloir de la maison. Je me dis qu'il était grotesque de remonter 5 étages pour ces deux hommes qui n'étaient certainement que 2 passants ordinaires. J'attendis quelques instants au pied de l'escalier, puis, me rendant compte que j'allais attirer l'attention, je frappai à la porte de la loge des concierges. Je leur dis la première chose qui me passa par la tête. J'attendais un ami. Puis, m'avançant dans le couloir, je regardai dehors, laissant juste passer un œil comme si j'étais caché par un arbre. Les deux hommes ne contemplaient plus la devanture et se faisaient face comme s'ils allaient se quitter. Je reculai aussitôt. Quelques instants après, je jetai encore un regard dehors. Ils étaient toujours là. Je retournai chez les concierges et leur dis, pour me donner une contenance, qu'il n'y avait rien de plus ennuyeux que d'attendre quelqu'un quand on était pressé. Je me mis à marcher de long en large dans le couloir sombre et humide. Je sentais que normalement j'eusse dû faire les 100 pas devant la maison car le temps était magnifique. Mais après tout, je pouvais craindre de manquer cet ami. Il y a des raisons insignifiantes à nos gestes que les gens ne cherchent heureusement pas à connaître. Les deux hommes ne s'en allaient toujours pas. Je commençais à être inquiet, quoiqu'ils ne regardassent jamais vers la maison. J'avais même l'impression, en les voyant parler, que si je sortais, ils ne s'en apercevraient pas. Je me demandais ce que je devais faire. Si je remontais dans ma chambre, si je ne sortais pas et que leur mission fût de m'arrêter, ils allaient venir me chercher. Mais dans ce cas, ne l'auraient-ils pas déjà fait? Il y avait peut-être une subtilité juridique qui les empêchait de m'arrêter chez moi. De nouveau, je regardais dehors. Ils n'avaient pas bougé. Je décidai finalement de remonter dans ma chambre. Mais arrivé à mon étage, j'eus une sorte de dégoût à aller m'enfermer. Je marchai jusqu'au fond du couloir, je pris l'échelle, ouvris la lucarne. Puis j'attendis penché sur la rampe. Mais la cage de l'escalier était très étroite et je n'aurais pu voir une personne montant sans mettre la main sur la rampe en longeant le mur. Au bout d'une heure, comme rien ne s'était produit, je remis l'échelle à sa place et redescendis. Les deux hommes étaient toujours là. Cette fois, je fus pris d'une grande frayeur. Me sauver par les toits? C'était ridicule de se faire prendre pour un cambrioleur si je ne courais aucun danger. Je ne savais que faire. Je me dis finalement que j'attendrais jusqu'à midi. À ce moment, si malgré l'heure du déjeuner il restait là, il me faudrait fuir. Je remontai, et je m'assis sur une marche. À midi, je descendis. Pour donner un air normal à tout ce qui s'était passé, je dis au concierge que cette fois j'en avais assez d'attendre, puis je regardai dans la rue. Les deux hommes n'étaient plus là. Je ne sais si c'était à cause de ce qui s'était passé le matin, mais je me couchai tout de suite en rentrant le soir tellement j'avais de fièvre. Impossible de trouver de l'alcool. Je voulais me faire transpirer. Je grelottais. Je me rhabillais pour aller demander à la concierge de me monter de l'eau bouillante. J'étais en nage, mais je n'avais pas de chemise pour me changer. Je m'enveloppais le torse dans l'étoffe placée entre le drap et le matelas. Malgré ma fièvre, je me demandais ce que je ferais si la police faisait irruption à présent dans la chambre. Il n'y a rien de tel pour nous débarrasser des soucis que la maladie. Mais je me dis tout de suite après qu'il ne fallait pas se laisser tromper par notre nature. Elle suit des règles beaucoup trop douces pour la vie que nous menons. À 10 heures, la concierge monta. Je lui avais laissé la clé. Quand je l'entendis ouvrir, je me dressai d'un bond. Elle m'apportait une autre tisane. Elle vit ma chemise trempée. Elle voulut l'emporter pour la faire sécher dans sa cuisine. J'essayai de l'en empêcher. Elle l'emporta quand même. Je me dis que si la police arrivait en ce moment, je ne pourrais pas m'habiller. Qu'allait-il se passer demain si je n'allais pas mieux? Je me dis, pourvu que je sois guéri. La concierge était très gentille, elle préviendrait l'hôpital sans même m'avertir. Quand nous sommes malades, les gens ne nous demandent même plus ce que nous voulons. Le lendemain matin, je me levais, m'habillais. Je ressentais cette sensation étrange d'aller mieux tout en ayant autant de fièvre. Je pris 3 cachets, il fallait absolument que je fusse en bonne santé. La police est trop maligne. Elle se pose partout où, fatalement, avec le temps, on doit finir par aller. Les hôtels, les hôpitaux, les gares, les maisons de plaisir. Si je voulais lui échapper, il fallait que je n'eusse besoin de personne, que je pusse me soigner seul. Je m'apprêtais à sortir lorsque mon père arriva chez moi. Il n'était pas comme d'habitude. Il m'annonça que des inspecteurs étaient venus au lycée pour me demander. Je me mis à trembler. Mon père était essoufflé. Il me dit qu'il avait pris 1000 précautions avant de venir. Il allait immédiatement mettre Mandanel au courant. Ce qui le frappait surtout, c'était que les inspecteurs, quoique parlant français comme des Français, lui avaient paru des étrangers. Ils avaient été excessivement polis. Je regrettais d'avoir laissé partir mon père. J'aurais voulu descendre avec lui. Bien qu'il n'eût rien pu faire en cas de danger, je me serais senti moins seul. Mais il n'avait pas pu m'attendre tellement il était agité. Je descendis presque aussitôt après lui. En arrivant en bas de l'escalier, j'aperçus un homme dans la loge de la concierge. C'était un homme assez maigre, avec des vêtements usés et amollis par le temps. Il avait des yeux très noirs, un grand front dégarni, de longues mèches de cheveux plaquées sur le crâne, les unes à côté des autres, et laissant apparaître de minces bandes de calvitie. Je ne sais pourquoi, mais ma première impression fut que cet homme était un camelot, un démarcheur, un placier, qu'il cherchait à vendre quelque chose, enfin que c'était un homme pas très honnête, vivant en dehors de la société grâce à un subterfuge quelconque. Au moment où je venais de passer devant la loge, j'entendis frapper au carreau. Je continuai ma route, faisant semblant de ne pas entendre. J'avais à peine fait quelques pas qu'on m'appela. Comme personne ne sortait de la loge, que cela n'avait pas l'air très important, je m'arrêtai. « C'est moi que vous appelez ?» demandai-je à la concierge. « Mais oui, venez !» Je m'approchai de la fenêtre que la concierge venait d'ouvrir. « Justement, ce monsieur veut vous parler. » J'eus un moment de frayeur, mais presque aussitôt, tant ce que je redoutais eût été grave, je me rassurai, en imaginant que cet homme n'osait pas vendre directement ses produits, que pour faire plus sérieux, il s'adressait au locataire par le canal d'intermédiaire. Il essayait simplement de placer dans la maison quelques marchandises, ou de découvrir quelqu'un à qui il eût pu vanter les avantages d'une assurance-vie. Il avait commencé par s'assurer les bonnes grâces de la concierge. Maintenant que c'était fait, il ne lui restait plus qu'à la stimuler, qu'à lui dire, par exemple, « Appelez donc ce monsieur ». Il travaillait en somme avec elle. J'entrai dans la loge, très à mon aise, mais sans oser m'adresser directement au pauvre bougre. Je dis en souriant à la concierge, « Que me voulez-vous ? Monsieur veut vous parler, » répéta-t-elle. Comme le démarcheur gardait toujours le silence, j'eus subitement l'impression qu'il était intimidé, comme on l'est toujours quand on fait interpeller par un tiers une personne à qui l'on n'ose pas, soi-même, adresser directement la parole. Conscient de me montrer un peu trop courtois avec un homme que je ne connaissais pas et qui se servait de tels moyens pour me parler, je me tournai vers lui et lui demandai aimablement de quoi il s'agissait, me gardant bien, par une sorte de crainte inexplicable, de paraître admettre qu'il pût s'agir de moi. Je dois dire qu'à ce moment j'eus soudain le pressentiment d'un malheur. En le regardant superficiellement, cet homme m'avait fait l'impression d'un monomane vivant seul, pauvre, allant de porte en porte avec le faux air d'avoir exercé une profession libérale. Mais en lui parlant, en le regardant en face, j'avais tout à coup découvert qu'il n'était pas du tout le pauvre type que je croyais. J'avais cru qu'il s'exprimerait à la manière d'un camelot, mais pas du tout. Ce qu'il avait à dire, il le disait de façon précise. Ce qui me rassurait encore, c'est qu'il avait devant lui, sur la table ronde de la loge, une feuille de papier ordinaire sur laquelle quelques noms étaient inscrits. Il me dit qu'il était déjà venu plusieurs fois, mais qu'il ne m'avait jamais trouvé. Je demandai à la concierge pourquoi elle ne m'avait pas averti. Il ne la laissa pas répondre. Ce qu'il avait à me dire n'était pas pressé. Il avait préféré revenir. Enfin, il me raconta une histoire de recensement. Rien que dans cette maison, nous étions quatre sur qui il n'avait encore pu mettre la main. Puisque j'étais là, nous allions tout de suite régler cette question. Il me demanda, comme un service que je lui rendais, si je pouvais l'accompagner au bureau. Mon premier mouvement fut de refuser, de trouver un prétexte quelconque, de promettre de venir plus tard. Je l'invitai à me laisser l'adresse de ce bureau. Il me répondit qu'il ne demandait pas mieux, mais qu'il y avait un inconvénient pour moi. Je me trouverais au bureau en contact avec d'autres employés. Cette histoire de recensement aurait dû être réglée depuis longtemps. Je risquais de tomber sur quelqu'un de peu complaisant et d'avoir des ennuis. Si je pouvais disposer de quelques minutes, un quart d'heure au plus, le bureau était tout prêt. Il réglerait cette question immédiatement, et nous en serions l'un et l'autre débarrassés. « Ces bureaux sont près d'ici ? » demandai-je. « À 5 minutes, juste en face de la perception. » Je connaissais cette perception. Il n'y avait aucun commissariat dans les parages. La perspective de ces ennuis dont l'homme m'avait parlé, d'enquête venant se greffer sur un délit insignifiant, me fit penser qu'il valait mieux en finir tout de suite. D'autant plus que cet homme avait un aspect vraiment rassurant. Il m'était même sympathique. Il n'avait pas l'air habituel des fonctionnaires. On devinait l'ancien déclassé, qui, par je ne sais quel moyen, a pu entrer dans une administration sérieuse, à qui cette aubaine n'avait pas le moins du monde tourné la tête, qui cherchait à se lier avec les gens que sa nouvelle fonction lui permettait d'approcher et à leur soutirer de toutes petites sommes d'argent. En cours de route, ce qui est assez drôle quand on verra comme tout cela a fini, il me raconta différentes histoires qui me prouvèrent que j'avais vu juste. Il n'aimait pas travailler pour l'administration. Il m'avoua qu'avant la guerre, il était arrivé à gagner suffisamment aux courses pour vivre. Actuellement, ce n'était plus possible. Comme il avait des charges, ici, il fit un geste qui signifiait qu'on pouvait lui reprocher bien des choses, mais pas de laisser les gens qui dépendaient de lui dans le besoin. Qu'il fallait bien qu'il gagnait sa vie. Alors il était entré dans la police, mais provisoirement, car il n'aimait pas ce genre de travail. Je sursautais. Je lui demandais d'une voix dont je n'étais pas sûr qu'elle fût normale, qu'est-ce que la police avait à voir dans mon histoire de recensement. Il me répondit qu'à présent tout passait par la police, que puisque je n'avais pas répondu, la commission du recensement avait transmis mon dossier, etc. Je n'avais rien à craindre d'ailleurs, puisque c'était lui qui s'occupait de cette affaire. Je me raisonnais. Je me dis qu'il ne fallait pas être un enfant. « Nous sommes arrivés, » dit-il en me montrant une maison pareille à toutes les autres, paraissant cependant plus consciencieusement construite. « Je ne comprends rien à cette histoire, » dis-je. « Montrez-moi des papiers, quelque chose. » Il tira de sa poche plusieurs feuilles. Sur l'une, il y avait le nom de Tinet. Il s'agissait en effet de recensement. « Et qu'est-ce que c'est que cette maison où nous allons ?» demandai-je. « C'est le district. »« Quel district ?»« Le district du quartier. »« C'est là qu'on va pour le recensement ?»« Naturellement. Où voulez-vous aller ?» Sur le moment, je ne fis pas attention à cette réponse. J'étais tellement partagé entre l'inquiétude et le sentiment que tout était normal que cette maison me fit l'effet d'une sorte d'annexe de je ne savais quelle administration. Nous nous engageâmes sous une voûte. Je lus en effet sur une pancarte d'émail blanc le mot « district ». On monta au premier étage. On entra dans un appartement sans frapper. On traversa plusieurs chambres qui se commandaient. Dans chacune d'elles, il y avait des employés assis devant des tables. Enfin, nous arrivâmes dans une grande pièce qui devait être primitivement le salon de l'appartement. Il y avait là également beaucoup de tables. Dans un coin, pourtant, je remarquai un bureau empire derrière lequel se tenait un homme qui visiblement était le chef. Ce qui m'inquiétait à présent, c'est que je n'arrivais pas à déterminer si toutes ces chambres, si cette grande pièce elle-même, étaient des lieux publics, ou si je n'y avais eu accès que parce que j'étais accompagné. Puis je vis mon compagnon s'approcher d'une table, dire quelques mots à l'oreille d'un employé, me faire signe d'attendre, puis s'en aller tout seul. Étais-je pris ? À ce moment, j'en eus nettement l'impression. L'homme qui était assis me dit « Ah, c'est vous !» Je ne répondis pas. Je ne me sentais même pas le courage de répondre. Un autre homme, qui était assis plus loin, se leva et vint regarder les papiers par-dessus l'épaule de celui qui venait de me parler. « C'est le Talouet. Eh bien, ça a été dur. » Je me mis à trembler, mais fort heureusement des jambes seulement, si bien qu'on ne s'en aperçut pas. J'étais pris. Le sang me monta à la tête si violemment que je sentis ma vue se troubler.